Et il y a 252 millions d'années, de gigantesques éruptions volcaniques déversaient des tonnes et des tonnes de gaz toxiques dans l'atmosphère et recouvraient l'équivalent de la superficie de l'Europe sous plusieurs kilomètres de lave. S'en est suivie la plus grande extinction de tous les temps. Une équipe internationale de recherche vient de mettre la main justement aux États-Unis sur un gisement fossile foisonnant, montrant à quoi ressemblait la vie après la catastrophe. C'est une découverte inattendue parue dans le journal Science Advances, dont vous êtes le coordinateur Arnaud Braillard. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous êtes paléontologue chargé de recherche CNRS au laboratoire biogéosciences à Dijon. Alors, le gisement de fossiles que vous avez déniché près de la ville de Paris, mais dans l'Idaho, hein, aux États-Unis, est incroyablement riche. Décrivez-nous justement cette vie sous-marine, hein, telle que vous l'avez retrouvée fossilisée.
Alors, effectivement, c'est un gisement qui correspond à un domaine marin qui contient énormément d'espèces différentes et qui comprend aussi bien des espèces qui vivaient dans la colonne d'eau que des espèces qui vivaient sur les fonds marins. Alors, parmi ces espèces, on peut y voir des étoiles de mer, des crinoïdes, des éponges, des crevettes et des poissons ou des requins encore.
Des crinoïdes, qu'est-ce que c'est ?
Alors, des crinoïdes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des lys de mer. C'est apparenté un petit peu aux oursins ou encore aux étoiles de mer. Il faut imaginer ça comme un petit peu une étoile de mer qui vivait fixée par un pied.
Pourquoi une telle biodiversité est exceptionnelle pour cette époque de l'histoire de la Terre ?
Alors, c'est relativement exceptionnel puisque ça sort du modèle couramment accepté où après une extinction de masse, notamment une extinction d'une telle ampleur qui a éradiqué un peu plus de 90% des espèces marines, normalement la vie devrait remettre plusieurs millions d'années à réapparaître après cette extinction de masse. Or, il se trouve que là, on a une faune extrêmement abondante, très rapidement après l'extinction, seulement un million et demi d'années.
Ah oui, c'est rapide.
Est-ce que dans l'autre sens, on pourrait pas remettre en cause l'extinction en elle-même et le chiffre 90% de la vie marine qui a disparu ?
Non, on a des estimations qui oscillent entre 80 et 90% aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que c'est quasiment toute la faune et toute la flore hein, aussi sur les continents qui a été touchée par cette extinction. Et finalement, les 10-20% restants survivants ont donné toutes les faunes qui ont donné les organismes modernes et les écosystèmes modernes tels qu'on les connaît aujourd'hui.
Alors, parmi les fossiles que vous avez découverts, il y en a quelques-uns qui sont très intéressants et très impressionnants. Est-ce que vous pouvez nous en décrire un ou deux ?
Oui, bien sûr. Alors, les plus intrigants qu'on ait retrouvés, ce sont une espèce d'éponge qui, en fait, on vivait il y a 500 millions d'années et qui a disparu pendant 200 millions d'années pour réapparaître dans ce gisement. Et une autre espèce assez intrigante est une espèce qui correspond à un ancêtre des calmars actuels. Et normalement, dans le registre fossile, ces espèces étaient censées apparaître que 50 millions d'années plus tard.
Ouais, c'était des animaux de quelle taille à peu près ? Vous parlez du calmar, par exemple ?
Alors, ce qui est apparenté à un calmar actuel devait faire entre 15 et 20 cm. Alors, ça avait globalement la forme des calmars actuels. Mmh. Cependant, leurs bras et leurs tentacules étaient entièrement recouverts de crochets, ce qui en faisait des prédateurs sans doute assez efficaces.
Redoutables, oui. Ouais.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie aquatique, dans l'eau, il y a 250 millions d'années, pour que toutes les espèces disparaissent de cette manière ?
Alors, lors de cette extinction de masse, il faut comprendre que les éruptions volcaniques massives qui ont eu lieu en Sibérie à cette époque-là ont relargué des quantités énormes de gaz à effet de serre, de gaz toxiques, qui ont complètement perturbé l'équilibre physico-chimique de la planète, en engendrant notamment un réchauffement climatique marqué, ou bien encore une acidification des océans, ainsi qu'une baisse de la teneur en oxygène des eaux.
Alors, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. À la une, on en parlait la semaine dernière, le taux d'oxygène qui baisse, la température qui monte, le CO2 qui augmente. Ça ressemble à la crise qu'on vit aujourd'hui ?
Effectivement, c'est très tentant de faire un parallèle entre les deux situations. Alors, faut faire attention, bien sûr, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps. Mais ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'on a commencé à engendrer, eh ben effectivement, au Permien-Trias, on voit la même situation qui s'est déroulée, en sachant qu'aujourd'hui, on est peut-être même sur des vitesses de changement beaucoup plus rapides qu'à l'époque.
Ah ben ça, c'est effrayant ce que vous nous dites alors, Arnaud Braillard, parce que la 90% donc des espèces marines qui disparaissent, alors sur un temps très long, mais aujourd'hui, avec l'accélération de toutes ces conjonctions, on peut craindre quoi alors exactement ?
Alors, faut pas être pessimiste. Effectivement, c'est alarmant. Hein. Alors, je répète encore qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour vraiment faire des prédictions sur ce qui va se passer à partir du registre fossile. Mm-hmm. Mais en tout cas, encore trop tard pour réagir. Mais effectivement, on semble se diriger vers une situation qui risque d'être semblable en termes d'extinction.
Comment votre étude pourrait nous aider à anticiper et à prévenir ce qui pourrait se passer ?
Alors, ça peut avoir certaines applications, alors peut-être pas à très court terme ou directement, mais en pouvant, par exemple, tenter de donner des pistes sur les organismes qui vont survivre plus ou moins facilement, ou régions qui vont pouvoir plus ou moins protéger certains écosystèmes, on va être à même de dire, eh bien, justement, il vaut mieux protéger telle ou telle espèce.
Et alors, en l'occurrence, quels organismes, par exemple, pourraient le mieux faire face à ce type d'événement catastrophique ?
Alors, si on prend l'exemple du Permien Trias et du Trias inférieur, on s'aperçoit assez relativement facilement que des organismes comme les éponges, par exemple, risquent de survivre assez facilement et récupérer relativement vite après l'extinction. Il en est de même aussi pour certains organismes qui occupaient la colonne d'eau. Alors aujourd'hui, c'est un peu difficile de voir quels organismes pourraient être des analogues, mais en tout cas, on peut avoir certaines indications. Typiquement, mieux vaut protéger les coraux que les éponges. Il y a plus de chances que les coraux subissent de plein fouet les changements actuels par rapport aux éponges.
Alors, vous disiez qu'il fallait pas être pessimiste, mais si on lit votre étude, on peut être optimiste pour la vie, puisque 1 million d'années après la grande crise, la biodiversité est foisonnante, ça veut dire que la vie se remettra de la crise qu'on est en train de construire, si jamais elle arrive.
Alors exactement, quoi qu'il arrive, la vie a de fortes chances de se remettre rapidement. Alors sous quelle forme, on ne sait pas exactement. Le plus inquiétant, ce sera de savoir si l'homme fera partie de ces nouveaux écosystèmes. Ouais. En tout cas, la vie en elle-même repartira, ça c'est sûr,
bon,
et rapidement.
On va se déguiser en éponge, alors voilà. Ce sera le meilleur moyen de résister. Bruno Mansoulier, vous voulez réagir ?
Non, pas.
Ah bon, mais je voyais dans vos yeux que vous aviez envie
d'apporter
peut-être une équation à cette affaire.
C'est même très complexe.
Une dernière question, Axel.
Oui, vous parliez de reptiles, ou alors j'ai cru entendre parler de reptiles. Il y avait des reptiles à cette époque-là ?
Alors oui, il y avait des reptiles marins, il y avait des reptiles aussi sur Terre, mais dans les océans, il y avait des reptiles marins, et notamment dans ce gisement, on a des restes. Notamment des premiers ichthyosaures. Alors pour le grand public, c'est souvent représenté sous la forme d'organismes qui ressemblaient à des dauphins, sauf que c'était des reptiles.
Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé sur Terre alors ? Parce qu'on dit 90% donc de la faune sous-marine qui disparaît. Sur Terre, c'était exactement la même chose ?
Alors sur Terre, il y avait aussi des faunes et des flores développées. En ce qui concerne la faune, il existait aussi des grands vertébrés, notamment les ancêtres de ce qui vont devenir plus tard les dinosaures et les mammifères. Mmh. Et eux aussi montrent des extinctions marquées, mais l'enregistrement fossile étant un petit peu plus lacunaire, il est difficile de faire des estimations aussi précises. Vraisemblablement, on est plutôt sur des disparitions autour de 60-70% des espèces.
Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud Braillard, pour votre éclairage et ces projections peu réjouissantes, évidemment. En tout cas, cette étude est parue cette semaine dans Science Advances. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Et Axel ?
À demain.
À demain.
Exactement.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, bientôt la première image d'un trou noir. C'est l'incroyable objectif du projet Event Horizon Telescope, réunissant des dizaines d'équipes de scientifiques du monde entier. Du 5 au 14 avril, 12 radiotélescopes chinois, américains et européens vont se relayer pour observer certainement Sagittarius A, le trou noir au centre de notre Voie lactée. Ce trou noir ne laisse pas s'échapper la moindre lumière, mais les scientifiques veulent capturer l'image de son horizon, le contour du trou noir à partir duquel la lumière justement nous parvient. L'ensemble des données d'observation seront ensuite transmises à l'observatoire du MIT qui sera chargé de reconstituer une image qui devrait être publiée en 2018. Nous voyons en couleur grâce à nos ancêtres cueilleurs. Parmi les mammifères, seules quelques espèces de primates possèdent comme nous trois types de cônes dans les yeux, là où les autres espèces n'en ont que deux. Cette trichomatie nous permet de voir ce que nous considérons comme le spectre standard des couleurs. Une anthropologue canadienne a présenté ce week-end les résultats d'une étude portant sur 20 000 observations de 80 macaques et 30 espèces différentes, résultats montrant que les singes trichomatiques localisent et cueillent plus rapidement les baies que leurs congénères dichromatiques. Ainsi, notre riche perception des couleurs serait due à des ancêtres particulièrement bons à la cueillette. Et puis, pour repousser les moustiques, évitez les bougies à la citronnelle. Et oui, afin de comparer différents répulsifs à moustiques commercialisés, des biologistes et des ingénieurs ont testé l'efficacité de 5 sprays, 5 appareils et une bougie à la citronnelle. Leurs conclusions sont sévères. À une distance présence d'un mètre de moustique, seul un spray à l'eucalyptus et un ventilateur diffusant un insecticide réduisent de 60% la chance de se faire piquer. Les autres produits ne réduisent cette probabilité que de 10 à 30%, voire ils sont totalement efficaces, comme justement la bougie à la citronnelle ou les repousseurs par ondes sonores.